acqua bene, dove vivono le hommes, le femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer, maintenant, monsieur de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, tu l'écoutes les Garrigues à Montpellier, Canne à Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Oui, alors je crois qu'on va passer une émission qui est passée sur d'autres radios, je crois sur Paris. C'est un enregistrement qui a été fait pendant nos rencontres d'été à Etchenat, en Ariège, qui concerne le hors-série qu'on a fait avec l'OLS sur les luttes de libération nationale.
Et ce soir, on va parler de la question nationale, ou plutôt de la question des luttes de libération nationale, parce qu'on ne va pas vraiment parler théorie de ce qu'est la nation, de ce qu'est un peuple, mais plutôt de parler des gens qui sont en lutte, qui sont en mouvement, qui résistent. Alors, on sait, c'est une question qui est épineuse, qui est une question qui crispe souvent à l'extrême gauche, les militants libertaires, les militants anarchistes, notamment ceux qui sont dans des régions où ces luttes ne sont pas présentes. Et donc, quand est apparue cette question nationale dans les années 70, ces luttes de libération nationale, le mot national résonnait encore avec fascisme pour certains. Alors que finalement, ces nouvelles générations d'indépendantistes, et on le voit 40 ans plus tard, se jetaient sans compter dans les mouvements de l'époque. Écologie, lutte sociale, lutte contre une culture de masse. Finalement, les traités de fascistes n'avaient pas de sens. Dans certains coins, ces luttes existent même. Pays Basque, Bretagne, Occitanie, Corse. En fait, les milieux indépendantistes, nationalistes, se sont retrouvés aux côtés des révolutionnaires de tout poil. Si on prend l'exemple de la Bretagne, ils se sont retrouvés dans les combats de Plogoff, ils se sont retrouvés sur la bataille des ouvriers du juin français. Et comme ça, petit à petit, se sont fait des liens. Et leur nationalisme, autonomiste, indépendantiste, que sais-je et qu'importe, en tout cas, ils défendaient des idées au moins qui étaient proches de celles qu'on peut se retrouver nous à défendre en tant que libertaire ou en tant que au moins militant de gauche ou pour des idées progressistes, socialistes, communistes et j'en passe. Finalement, on s'est retrouvé à côté de ces militants indépendantistes dans les coins où il y en avait. Et ben c'est un peu ça qu'on va essayer d'interroger ce soir et donc on va revenir en fait à travers quatre temps autour du dernier numéro que Offensive a publié, le dernier numéro en kiosque, le numéro 30, qui s'appelle « Lutte de libération nationale, une révolution possible », un numéro qui est sorti conjointement avec Courant Alternatif, un mensuel anarchiste communiste, si on lit bien, c'est leur hors-série numéro 17 et qui est édité avec l'organisation communiste libertaire. Et donc cette émission va se dérouler en quatre temps. Quatre interviews, disons que le premier temps sera l'introduction d'un débat qui a été fait cet été 2011 au camping conjointement organisé par ces deux groupes politiques et qui présentait de manière générale les enjeux autour de ce dossier qui s'appelle, donc je le rappelle, lutte de libération nationale, une révolution possible. Et après cette introduction, on va avoir trois interviews en trois temps. Alors une première de Vanina, qui a écrit un article, qui a été interviewé dans cette revue, et donc là, qui est réinterviewé de manière orale, et donc qui parlera de la Corse, l'évolution du mouvement corse depuis les années 70 et des enjeux actuels, et on verra avec des questions très précises. Ensuite, on aura une interview, alors c'est un petit peu délicat d'en parler parce que c'est moi-même qui suis interviewé autour de la question de la langue en Bretagne et des enjeux, et comment la langue peut être aussi un lien social. Et enfin, on fera la rencontre de Boris, Boris du groupe Libertat, un groupe occitan, et qui sera une présentation d'un groupe pour avoir quelque chose de si vivant, et d'un groupe en lutte, d'un groupe qui s'organise, et on le verra, qui milite à gauche toute, comme on dit, largement. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale, et tout de suite après la pause musicale, je ne reprendrai pas la main, plutôt la parole, vous entendrez directement cette introduction qui a été faite de ce numéro, Lutte des Libérations Nationales. Vous entendrez peut-être des bruits d'escalier, des bruits de verre, des choses comme ça. Ça a été fait dans les conditions du direct, avec des gens autour pour venir écouter, pour venir discuter. Alors, on vous met pas tout le débat. Mais en tout cas, ça sera un peu vivant, en espérant que le son soit suffisamment, mais je pense, audible pour vous permettre de bien comprendre les enjeux, vu que ça pose le débat. En attendant, je vais vous laisser avec le groupe Truth and Noise, qui signifie le bruit de la nuit. Vous allez voir, c'est plutôt dynamique et péchu, pour un morceau qui s'appelle Police Nepler, Justice Nepler. Je ne suis pas sûr que ça soit bien utile de traduire ce que ça signifie. Je suis sûr que vous l'entendrez suffisamment au cours du morceau pour comprendre ce que ça signifie. Police Nepler, Justice Nepler, Police Nepler, Justice Nepler, Police Nepler, Justice Nepler, Police Nepler, Justice Nepler, Police Nepler.
Le thème du débat de ce soir, c'est autour des buts de libération nationale et notamment autour du numéro commun donc, qui a été fait par l'OCL et l'OLS. Donc, pour commencer, on va faire un petit rappel historique. Donc, pour rappeler qu'une partie des États modernes que l'on connaît se sont créés et développés en colonisant d'autres États, en se constituant donc en empires coloniaux, qui a amené l'asservissement des populations locales et le pillage des richesses. À partir de 1947, avec l'indépendance des Indes britanniques, c'est le début de la période de la décolonisation. Des mouvements nationalistes qui étaient déjà actifs dans un certain nombre de pays s'arment et se soulèvent. Ces mouvements sont loin d'être univoques, comme on peut le voir avec l'exemple de l'Algérie, où notamment les Berbères revendiquaient, et revendiquent d'ailleurs toujours, une Algérie plurielle, composée d'Arabes mais aussi de Berbères, une Algérie où le patrimoine culturel et linguistique est pluriel, comme le passé historique. Et ces Berbères se sont retrouvés confrontés à une voix qui sera majoritaire dans le mouvement de libération nationale algérien et qui considère qu'être algérien, c'est être arabe et musulman. Après l'indépendance, notamment en Afrique et en Asie, les États se restructurent autour d'une fiction nationale qui prétend gommer la pluralité de leur composition, appliquant la devise jacobine, un pays, un peuple, une culture, une langue, une histoire, comme c'était déjà le cas en Europe depuis le 19e siècle. Alors pour revenir maintenant un peu plus sur les raisons qui nous ont poussé à faire ce numéro sur les luttes de libération nationale, c'était avant tout pour contrer l'idée que toute lutte de libération nationale est forcément réactionnaire, donc en gros contre le progrès, qui dénote une vision assez linéaire de l'histoire, comme en gros chaque étape historique amènera un progrès vers le progrès de l'humanité, en gros, pour résumer. Et surtout, c'est une vision qui occulte la diversité qui caractérise les luttes de libération nationale. On peut dire que du coup, c'est la position de ce dossier, c'est qu'on n'est pas nationaliste, mais on n'est pas non plus antinationaliste primaire. Et on pense que certains aspects des mouvements de libération peuvent être émancipateurs.
Pour continuer sur les raisons pour lesquelles on l'a fait aussi parce que, grosso modo, on est quand même entouré, on est quand même dans un mouvement dans lequel beaucoup de composantes, que ce soit le mouvement libertaire ou d'autres mouvements, disons, révolutionnaires, sont extrêmement plus que critiques vis-à-vis des luttes de libération nationale et considèrent que toutes ces luttes-là sont des luttes effectivement réactionnaires. Donc c'était aussi une manière de poser d'autres types de problèmes qui nous semblent collés quand même avec la problématique libertaire. En particulier, la lutte contre l'uniformisation. C'est pour ça que dans le dossier, on retrouve pas mal de constantes et de discussions et de rapports des luttes sur le problème de la langue. Hein. C'est l'article de Gildas et d'autres références, etc., sur le problème de la défense de la langue, posant le problème de la diversité culturelle et surtout de la non-division, de la non-séparation qu'il y a finalement entre politique et culture. L'autre aspect, c'est que les luttes de libération nationale, elles ne nous paraissaient pas. Alors, faut laisser tomber l'histoire de national, pas national, est-ce que c'est seulement libération? Bon, c'est un mot, on voit à peu près ce que c'est. Hein. Ces luttes de libération nationale, c'est des luttes essentiellement pour la réappropriation de quelque chose. Or, en ce sens-là, elles ne sont pas différentes de toutes les luttes qu'on peut être amené à soutenir ou à participer. C'est-à-dire que finalement, toutes les luttes sociales sont toujours des luttes de réappropriation. Réappropriation d'un espace, réappropriation d'une langue, réappropriation d'un territoire, réappropriation du corps, réappropriation de la vie en général, du travail, réappropriation des choses qui nous sont arrachées. Bon. Et que donc, en tant que tel, les luttes de libération nationale posent ce type de problème, pas seulement du territoire, mais à partir du moment où on revendique un territoire, on repose la question de qu'est-ce qu'on en fait de ce territoire, Comment on pourrait l'organiser de manière différente? Pourrait-il se passer du capitalisme? Quelles sont les forces sociales qui agissent au sein de ces mouvements? Comment des bourgeoisies montent aussi par ces mouvements, etc.? Y a-t-il des luttes sociales? Dans le numéro spécial, on l'explique dans le truc sur les positions de l'OCL, mais aussi, il y a dans l'article sur l'appartenance, l'article... Bon, moi j'ai fait un autre article sur les faiblesses du mouvement libertaire historique, mais aussi plus largement révolutionnaire par rapport aux luttes de libération nationale. Donc, les examiner à cette lueur-là les rend finalement pas très différentes d'autres luttes qu'on n'est pas habitué à marteler, à stigmatiser comme ça de manière extrêmement violente sans les examiner. Le deuxième problème que pose les luttes de libération nationale, c'est l'engagement militant. Alors il y a deux types d'engagement militant, bien évidemment, selon qu'on est partie prenante d'une lutte de libération nationale ou selon qu'on est dans la société qui opprime. On peut être militant révolutionnaire, libertaire et vivre en Irlande, en Algérie, pas moi en Corse, au Pays Basque, etc. Donc c'est un engagement politique de lutte contre toutes les oppressions, et l'oppression coloniale bien évidemment, et l'oppression en est une, mais il y a aussi la façon dont, en tant que militant révolutionnaire, on peut appréhender la façon dont sa propre bourgeoisie, en tout cas l'espace dans lequel on vit nous, même si c'est pas notre bourgeoisie au sens qu'on y tient, comment affaiblir l'état colonial dans lequel on vit. Et c'est le cas de ce qui a été, par exemple, le soutien ou pas à la guerre d'Algérie, le soutien ou pas à la révolte Kanak. Et ça pose un autre type de problème, qui n'est pas tellement éloigné des autres, mais enfin, c'est deux types de rapports à la militance qui peuvent aussi parfois se cumuler, parce qu'on peut aussi être un militant basque qui lutte contre l'oppression coloniale de l'État français, mais en même temps, en tant que militant basque, on peut être aussi à l'intérieur de ce système qui lui-même a exploité et colonisé des pays. C'est ainsi que, par exemple, au Pays Basque, beaucoup de militants ont compris aussi l'oppression qu'ils subissaient quand on les a envoyés en Algérie, faire subir l'oppression, une oppression spécifique contre la révolution algérienne. Alors, il y a des types de critiques qui sont faites à tout ça. C'est en général très fréquemment dans l'ultra-gauche, mais dans le mouvement anarch classique, c'est mais oui, mais ça n'a jamais rien donné. À chaque fois, ça a donné des nouveaux États. C'est une critique que personnellement je balance par-dessus la fenêtre, parce que tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Une grève, même victorieuse de salaire, a jamais pour l'instant abouti à l'abolition du salariat. Et c'est pas un argument de dire que les choses n'ont pas abouti, sinon on arrêterait de faire quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, c'est pas. En tout cas, ça pose d'autres types de problèmes.
Alors, moi, c'est juste sur un détail de la présentation entre les anarches classiques et puis. Le point de vue d'une certaine ultra-gauche ou ainsi de suite, je pense que c'est pas mal point pour la réflexion que j'avais, moi, c'est que les anars le posent souvent, on ne soutient pas parce que c'est la recréation d'un nouvel État. Donc on ne soutient pas pour faire un État et ainsi de suite. Alors que du point de vue plus marxiste, leurs objections à ça, c'est l'héritage de la pensée marxiste, mais qui fait que c'est une division de plus de la classe ouvrière qui s'atomise. Voilà, c'est pas du tout le même rapport de critique si on doit aborder l'un ou l'autre.
Aunque tú abajo, que si no es verdad, vine a amar.
venez d'entendre la chanson Rotake, comme vous l'avez entendu, du groupe basse, du fameux groupe basse des années 70, Shutagar. Alors, Rotake, ça signifie combattons, même les paroles exactes pour ceux qui ne comprennent pas le basque, et je pense qu'il y a quelques auditeurs qui sont dans ce cas-là. Combattons jusqu'à obtenir l'indépendance et le socialisme. Et donc du groupe basque Tagar qui signifie feu et flamme. Maintenant, nous allons aller plus à l'est, vers la Corse, en fait en s'arrêtant en Ariège pour dire la vérité, où on a rencontré Vanina, mais qui nous parle de la situation en Corse.
Nous sommes avec Vanina, qui est membre de l'OCL, l'Organisation communiste libertaire, et qui a publié deux livres d'analyse critique sur le mouvement corse, il y a déjà quelques années. Et là, plus récemment, et c'est l'objet de l'interview, de la rencontre avec Vanina, elle a répondu à une interview pour le numéro spécial Lutte de Libération Nationale, réalisé par Offensive, le numéro 30 d'Offensive, et Courant Alternatif, un hors-série pour Courant Alternatif, le numéro 17. Donc c'est un numéro récent qui est sorti en juin 2011. Et là, c'était une interview, entre guillemets, croisée entre Vanina et Vanina aussi, qui est une autre personne qui participe, elle, à la revue Fora, qui est une revue corse et publiée en Corse. Donc là, on est avec Vanina, qui est membre de l'OCL. Et donc, on va un petit peu revenir sur cette interview. Alors, on peut dire que le début du mouvement corse commence dans les années 60-70. À l'époque, on parlait beaucoup de colonialisme. C'était aussi l'époque, hein, après les luttes de libération nationale dans d'autres pays, comme en Algérie, comme en Afrique, etc. Est-ce que tu penses que parler de colonialisme aujourd'hui, ça reste quelque chose de valide ?
Bon, c'est un terme qui est plus tellement employé, mais si on regarde la situation, si on examine la situation dans les années 70 et aujourd'hui, on trouve quand même que beaucoup de choses ne se sont pas améliorées concernant la Corse, sur le plan économique et social particulièrement. Là où il y a eu des avancées, c'est par rapport à la revendication culturelle. C'est-à-dire que maintenant le corse est enseigné un petit peu à l'école, il est étudié pas mal à la fac. L'université donc de Corte a rouvert en 81 sur la promesse de Mitterrand quand il est arrivé au pouvoir. Il y a des savoir-faire des traditionnels corses qui sont remis au goût du jour, les chants polyphoniques, tout ça, enfin bon, tout ça, ça marche bien. Il y a la nouvelle collectivité territoriale, donc des institutions spécifiques à la Corse, avec un exécutif et une assemblée corse, qui ont bien davantage de pouvoir que des pouvoirs d'une région. Mais après, si on regarde ce qui avait motivé le mouvement, d'abord régionaliste et après indépendantiste, autonomiste et indépendantiste, c'est la prise de conscience d'une dépossession, pas seulement de la langue, mais aussi de l'économie, et la prise de conscience d'une situation démographique qui allait en empirant. C'est-à-dire qu'en Corse, on a la Corse est très peu peuplée, elle est peuplée par une population très âgée. L'économie, ça tient à très peu de choses. C'est essentiellement le tourisme et la monoculture. Et déjà dans les années 60-70, les ingrédients d'un développement touristique étaient là. Il y avait des projets, des tas de projets de complexes touristiques et tout ça qui voyaient le jour, qui sortaient des cartons. Et il y avait particulièrement avec l'arrivée des colons pieds noirs suite à la décolonisation, l'installation sur toute la plaine orientale d'une monoculture. Et donc ce sont, enfin, et cette situation, l'installation des pieds noirs, s'est faite au détriment des petits agriculteurs corses. Et là, il y a eu un clash sur le fait qu'ils étaient prioritaires pour avoir se voir attribuer ces terres, alors que il y avait des difficultés pour les agriculteurs à cultiver des terres. Donc c'est le sentiment d'une dépossession au niveau économique et démographique qui a amené ce mouvement de réappropriation à tout les niveaux, cette revendication qui est devenue donc rapidement indépendantiste. Et ça, on retrouve cette situation, parce que même si il y a maintenant des institutions spécifiques donc qui fonctionnent depuis les années 80, particulièrement avec la collectivité territoriale corse, donc une classe politique qui est insulaire, tout ce qui est développement de la Corse sur la base de l'industrie touristique n'a pas du tout été oublié. C'est même le contraire qu'on constate depuis 3 ans, avec des ventes de terres qui se font de façon très accélérée. Des projets de complexes touristiques qui ressortent, les multinationales, les chaînes de supermarchés, des tas de choses qui explosent dans l'île, qui arrivent de façon très très forte. Et il y a depuis 2 ans, l'INSEE constate qu'il y a une augmentation démographique, mais qui n'est absolument pas présentée par l'INSEE comme ça. Ce n'est pas du tout lié aux naissances en Corse, c'est lié à un afflux de gens qui viennent s'installer en Corse, qui sont souvent des retraités, qui viennent avec des hauts revenus. Et à l'inverse, il y a de plus en plus une précarité et un gros problème économique. La Corse est une des régions où les revenus sont les plus bas, avec une vie, un pouvoir d'achat. Enfin, la vie est très chère et en même temps, les salaires sont plus bas qu'ailleurs. J'ai plein de chiffres que je pourrais donner si ça intéresse. Mais donc, c'est pour dire que la situation sur le plan économique et démographique, c'est pas du tout amélioré.
Alors, du coup, peut-être que pour les chiffres, on pourra se reporter aux ouvrages que tu as écrits, même s'ils datent un peu, ou on peut les retrouver, mais on comprend le principe. Par contre, quand on entendait colonialisme, c'était aussi une volonté de l'État de maintenir... des régions dans une certaine spécialisation, dans un certain rôle spécifique, des régions ou des nations. Et est-ce que le phénomène qui se passe en Corse aujourd'hui, c'est pas plutôt un phénomène classique du capitalisme? Et en quoi il y aurait quelque chose de spécifique à la Corse aujourd'hui dans la situation qui la maintient en fait dans une sorte de dépendance vis-à-vis du continent?
C'est certain que si on regarde sur le plan développement capitaliste, on est en plein dedans et il n'y a pas... dans les années 70, il y avait volonté de l'État affirmée, il y a une lettre qui a été écrite par Pierre Messmer, qui était Premier ministre à l'époque, annonçant que ce qu'il fallait rechercher, c'était le départ en fait de la population corse, qui est de moins en moins d'autochtones, mais il a fait pareil en Nouvelle-Calédonie. Enfin, ça c'est, il y avait l'idée de faire partir et de avant tout développer le tourisme, et développer le tourisme pas particulièrement avec les insulaires. Donc il y a eu ce truc là et ce que je disais aussi par rapport aux terres concernant l'agriculture, la viticulture, ce qui a fait tout le développement par rapport au vin corse et tout ça, et avec le scandale des vins corse dans les années 70, tout ce qui a déclenché le mouvement autonomiste et indépendantiste ensuite, ce truc-là, on peut pas parler strictement, stricto sensu, de l'État français. C'est sûr que là, on a affaire à des multinationales et c'est ce que j'ai décrit se retrouve dans d'autres régions sur le plan économique.
D'accord. Et du coup, tu parlais du développement culturel spécifique à la Corse, les avancées qu'il y a pu avoir à la fois en termes de langue, de musique, de reconnaissance d'une culture. Est-ce que, à ton sens, ça suffit aujourd'hui à résister justement à une culture aussi, pour le coup, libérale, massive, qui pousse d'un côté? Et est-ce que cette culture est suffisamment vivante, je dirais, pour pas être folklorisée, pour pas être pour pas être mis en fait dans un espèce de d'armoire comme on a pu voir des fois. Il y a des choses qui seront mises, même les, je crois que les champs polyphéniques ont été mis patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ça fait pas des cultures vivantes, des cultures réappropriées par les populations.
Ça peut être faire partie d'un folklore, point final. Le folklore se vend très bien, donc dans le développement touristique ça peut marcher très très bien. Je crois que ce qui a changé et qui est très positif là, pour le coup, et qui constitue un bouclier par rapport à la culture corse et à la langue particulièrement, c'est que contrairement à il y a 50 ans, 60 ans et tout ça, c'est dans la tête des Corses que la vision de la langue et de la culture a changé. C'est-à-dire que dans la politique d'intégration par l'État français de la Corse, hein, je rappelle que la Corse a été achetée par la France il y a deux siècles à la République de Gênes, qu'il y a eu une pacification très violente, il y a eu une répression vraiment très très forte, et après cette politique donc militaire, hein, où les Corses ont été battus sur le terrain, il y a eu une politique d'intégration de la population corse qui est passée comme dans beaucoup de régions françaises, en Bretagne et tout ça, on retrouve ce phénomène-là, par l'obligation de parler français, et par la présentation des langues qui étaient parlées dans certaines régions, comme des patois, des trucs liés à un archaïsme, et les instituteurs de la Troisième République ont été très très forts sur ce coup-là, puisqu'ils ont vraiment joué l'assimilation par la langue française, et donc la négation des cultures régionales, ils ont été des agents très actifs de l'État jacobin. Et donc ça a beaucoup changé, parce que maintenant, bon, j'ai dit tout à l'heure, les élèves apprennent à l'école un peu le corse. Il y a beaucoup, le corse a été codifié en tant que langue écrite. Il n'y avait pas beaucoup, c'était pas unifié d'une région de la Corse à l'autre, et c'était pas beaucoup écrit. Et maintenant, il y a une forte production du corse. Au niveau du vocabulaire, beaucoup de choses avaient été perdues puisque on ne devait pas parler corse, on se faisait ridiculiser quand on parlait corse à l'école, quand on parlait corse si on était moderne, on ne devait pas parler corse. Donc ce truc-là, ça fait que beaucoup de termes modernes n'existaient pas. Donc il y a une recherche de la part des linguistes et des enseignants en Corse pour retrouver ou pour recréer sur la base du corse des mots correspondant à la modernité. Enfin, et il y a ce regard maintenant. Bon, des fois, c'est le truc qui peut paraître ridicule, c'est l'affirmation qu'on trouvait à un moment sur les autocollants à l'arrière des voitures, je suis corse et j'en suis fière. Mais ça traduit un truc qui est la prise de conscience que, enfin, une revalorisation de soi-même, de son identité culturelle. Et ça, c'est très important, parce que l'identité culturelle, c'est pas un truc qui s'oppose forcément, qui nie les autres cultures. C'est revendiquer son identité à soi, ça ne veut pas dire qu'on trouve que les autres cultures ne valent rien. Au contraire, c'est un enrichissement de plus. Apprendre une langue comme le corse, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre d'autres langues. Au contraire, c'est plus on connaît de langues, et de plus on peut en connaître d'autres. Ça peut être une ouverture au lieu d'être une fermeture, comme ça a souvent été présenté quand on disait que les langues comme le corse étaient des langues d'esprit rétrograde, des phénomènes archaïques qui ne devaient pas exister. Voilà.
Et donc du coup, par rapport à ça justement, si on prend l'exemple de d'autres pays qui composent la France, par exemple en Bretagne, il y a une séparation entre le mouvement culturel et le mouvement politique. Comment s'articule aujourd'hui la relation entre les deux, et puis quelle a été la place justement pour toi du politique pour revaloriser aussi la culture corse ou l'identité ou justement pour combattre la dépréciation que les gens pouvaient avoir d'eux-mêmes et de leur propre pays?
Ça, c'est le mouvement nationaliste qui a été l'acteur de cette résurgence du Corse. Alors, et mouvement nationaliste, c'est-à-dire dans ses diverses composantes. il y avait des acteurs sur le terrain culturel, le terrain associatif. Là, il y a eu beaucoup de gens qui, effectivement, ont agi pour une réappropriation, une réacquisition, se réapproprier le Corse. Mais dans le secteur artisanal et tout ça, mais sur le plan politique, quand même, c'est les militants nationalistes sur le terrain et particulièrement les clandestins. C'est la lutte armée qui, pour une bonne partie, a contribué à créer un rapport de force avec l'État français et qui a empêché le bétonnage des côtes pour une partie. Et après, il y avait la loi littorale, il y avait le conservatoire du littoral, des choses comme ça qui ont aussi freiné sur le plan des textes, des dispositions légales, disons, qui ont empêché qu'il y ait un bétonnage de la côte et une invasion touristique. Mais à côté de ça, ce qui a vraiment, vraiment joué, c'est la mobilisation sur le terrain des nationalistes, sur tous les terrains. Effectivement, ça a amené des institutions particulières, mais sur le terrain de l'environnement, on a retrouvé partout des gens qu'on peut qualifier de nationalistes. Ils s'étiquetaient pas forcément comme ça, mais de fait, c'était ça. Et ça, c'est à rattacher aussi au fait phénomène de l'après 68, sur le retour à la terre, sur le retour au pays, tout ça, ça a brassé énormément d'idées. Il y a eu un mélange vraiment de, à la fois, prise de conscience de l'existence d'un peuple et d'un mouvement corse et d'une identité culturelle spécifique, et donc la prise de conscience de du fait que si le peuple corse voulait continuer d'exister, il fallait qu'il se donne les moyens de le faire, c'est-à-dire que les forces vives devaient revenir en Corse, qu'il y ait une émergence de plein de choses, de plein d'idées, de plein de brasser beaucoup d'idées, et ça effectivement ça a bien fonctionné. Alors les nationalistes maintenant, bon, en dehors des groupes armés qui ont eu beaucoup de problèmes entre eux pendant quelques années, il y a eu des guerres fratricides, des tas de choses entre de groupuscules clandestins. Bon, en dehors de ça, il y a donc des élus nationalistes qui sont arrivés, qui sont élus dans les institutions régionales à l'heure actuelle. Qui défendent donc la langue corse, qui sont, enfin bon, il y a ça, mais ça va plus loin que ça, puisque la classe politique insulaire traditionnelle elle-même s'est retrouvée en situation de défendre le Corse, ce qui n'était pas le cas avant. Les élus claniques, enfin les élus traditionnels corses, ils parlaient corse aussi chez eux, et éventuellement quand ils parlaient à leurs électeurs, ils allaient leur dire trois mots en corse, mais il n'y avait pas du tout cette idée que la culture corse existait vraiment et qu'il fallait la défendre, alors que maintenant ce rapport de force qui a été créé par les nationalistes au sens large, hein, vraiment, je rappelle, sur tous les terrains, ça a changé l'image de la Corse, de la langue corse, et y compris dans la classe politique traditionnelle.
D'accord. Et peut-être pour conclure, parce que là on a fait un peu d'histoire, un peu pour revenir un peu sur finalement 40 ans, 50 ans de lutte en Corse, et pour essayer un peu de voir les évolutions aussi d'une lutte. Peut-être tu peux nous dire deux mots, tu as publié un article plus récemment dans Courant Alternatif sur les enjeux de la spéculation aujourd'hui en Corse. Peut-être que tu peux nous dire deux mots sur ce qui se passe.
Le problème, il est effectivement sur la spéculation immobilière, et c'est parti d'une... En fait, depuis les nouvelles institutions, la collectivité territoriale corse doit avoir produire un plan de développement durable et d'aménagement de la Corse, et elle n'arrivait jamais à le faire. Et puis il y a trois ans, la collectivité territoriale était à l'époque dirigée par la droite, et trois élus UMP, le président de l'exécutif, celui de l'assemblée territoriale et le président de l'office de l'environnement, ont concocté un plan d'aménagement et de développement durable qui s'appelle PADUC, qu'ils ont présenté à l'été 2008, et qui était un truc qui revenait à modifié totalement la loi Littoral et qui protège à l'heure actuelle le cinquième, entre le cinquième et le quart du littoral corse, en empêchant la construction à moins de 100 mètres du rivage, en dehors des zones urbanisées, à la queue des zones urbanisées. Enfin, il y a un certain nombre de protections comme ça. Et donc, ces élus ont fait un plan qui remaniait tout ça et qui faisait qu'il y avait moyen de modifier et de vraiment développer, bétonner les côtes. Ce machin-là, ces trois élus étaient intéressés directement puisqu'ils étaient élus, ils étaient également maires de leur commune, et qu'ils avaient des biens familiaux qu'ils avaient mis dans ces dispositifs qui permettaient de construire sur le littoral. Donc ces gens-là ont proposé leur plan à l'été 2008 et ça a fait un grand ramdam, une très très grosse mobilisation en Corse contre ce plan. Tellement qui était menée par les associations écologiques d'environnement, de défense de l'environnement, où on retrouve énormément de nationalistes, mais aussi bon, les partis de gauche, les syndicats. Enfin, bon. Et donc là, il y a eu un front uni contre le PADUC, qui a regroupé 80 groupes. Et ce truc-là a été tellement important que les élus de droite ont retiré leur projet. Ils ont essayé de le faire passer en douce, mais ça ne marchait pas. Et ils l'ont payé aux dernières territoriales. C'est-à-dire que ils ont perdu le pouvoir. C'est les radicaux de gauche qui sont l'autre force traditionnelle en Corse. C'est pas le PS qui existe. Ce sont les radicaux de gauche traditionnellement. Et donc les radicaux de gauche ont emporté la collectivité territoriale. C'est Paul Jacobi qui dirige à l'heure actuelle, c'est un élu PRG, donc radical de gauche, qui dirige la collectivité, qui est président de l'exécutif, mais il ne peut fonctionner que si s'allie, il n'a qu'une majorité relative, et il ne peut fonctionner que si s'allie aux nationalistes à l'heure actuelle. Les nationalistes ont fait un très gros score, ils ont obtenu 36% des voix, là, particulièrement les autonomistes. Il y a 11 élus autonomistes, 4 élus nationalistes, indépendantistes, donc voilà. Ouais. Et donc on est dans une situation comme ça. Les nationalistes ont fait ce très bon score en grande partie aussi parce qu'ils ont dénoncé le PADUC comme les écolos. Et enfin bon, ils ont vraiment joué ce jeu-là. Et la classe politique dans son ensemble a plus osé du tout présenter ce truc. Mais il n'empêche qu'il doit y avoir un plan d'aménagement et de développement pour la Corse, c'est un truc qui est donc en attente depuis très longtemps et qui doit exister à un moment donné. Et le problème, c'est qu'on en revient toujours, et personne n'a d'autres recettes que le développement touristique, y compris les nationalistes, particulièrement la frange autonomiste. Et ça, c'est lié beaucoup à la composition de ces forces autonomistes. Car ce sont des gens qui sont très souvent petits hôteliers, commerçants, artisans, enfin bon, qui ont un intérêt direct à avoir développé le tourisme. Simplement, eux, ce qu'ils voudraient, c'est davantage de tourisme de l'intérieur, un tourisme plus classe moyenne. Ils sont pas pour les gros complexes qui appartiendraient aux multinationales et qui se feraient en dehors de la Corse. Et donc, ils défendent une certaine vision du truc, mais ils voient rien d'autre, toujours, que le tourisme. Comme si la Corse devait forcément, ne pouvait avoir que cette recette à promouvoir. Et donc, dans le même temps que ce fameux PADUC a été rejeté, là, et tout le discours sur la spéculation immobilière a été vraiment très largement critiqué, dénoncé, qu'il ne fallait absolument pas de ça, on s'aperçoit que. Parallèlement, il ne s'est jamais autant vendu de terres en Corse, souvent en douce et tout ça, mais étant donné le prix au mètre carré sur le littoral, il y a énormément de gens qui vendent en fait. Et donc, si le PADUC n'est pas passé dans les faits au niveau de l'Assemblée, n'a pas été voté, il est en train de se réaliser ce phénomène-là ça explose, il y a énormément de constructions, le bâtiment marche très très fort, et c'est pas pour rien que dans les gens qui critiquent cet aménagement de la Corse, ce développement qui est recherché à travers uniquement le bétonnage de la côte et tout, il y a en fait les attentats des clandestins ont vachement, il y en a énormément, beaucoup beaucoup moins qu'avant, mais quand ils existent, quand ils se produisent, c'est en général contre des sociétés, des entreprises de bâtiments et ou des engins et tout ça. Enfin, et ce qui est pointé par certains clandestins, c'est ce développement touristique qui est la seule arme, enfin seule carte proposée à la Corse à l'heure actuelle.
Eh ben, merci Vanina pour ces quelques mots. On invite donc les auditeurs à regarder, à se procurer le numéro courant alternatif offensive sur les luttes de libération nationale, où donc il y a une interview donc, de Vanina avec, avec une autre personne donc, qui met un peu en débat les propos qu'on vient d'entendre. Merci.
Di popolo corso e lì sono le sostanze. A nuova tua scelta si campa per domani, a cieli di anote con terre d'arcane, all'ollo di amacchia quando usa ricca mane, stende l'oro oro verso altre montagne.
La semaine prochaine.
Bon, maintenant, à vous donner un petit peu de nouvelles. En particulier, il y a un certain nombre de procès qui ont lieu actuellement concernant le mouvement des retraites il y a presque un an. C'est au mois d'octobre. Il y a donc 11 mois. C'est ainsi qu'au tribunal correctionnel de Montpellier, le 22 septembre à 13h45, donc à Montpellier, comme cette émission est reproduite sur Montpellier, sur les Goligarigues, eh bien ça permet peut-être aux auditeurs de cette ville une piqûre de rappel. Ça se passait le 21 octobre 2010, il y avait donc la lutte contre la réforme des retraites, et le mouvement avait décidé d'occuper partiellement l'agence Pôle emploi de l'avenue de Toulouse à Montpellier. En fait, ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de problème, sauf qu'à la fin, eh bien, les gens ont décidé de partir en manifestation, et au bout de 5 minutes, après avoir parcouru environ 300 mètres, eh bien, sans la moindre sommation, la BAC est intervenue à la violemment chargé les manifestants, qui a distribué des tas de coups de matraque, etc. Il y a eu 5 personnes qui ont été arrêtées, gardées à vue. Parmi elles, Jurchos, un syndicaliste à la CNT, lui, n'a pas été libéré, contrairement aux autres, parce qu'il a refusé le prélèvement ADN. Il a finalement, comme vous le savez, pour qu'on oblige quelqu'un pour qu'il donne son prélèvement ADN, il faut qu'il soit condamné, hein, faut le savoir, ça, faut qu'il soit condamné, c'est pas parce que les flics vous arrêtent que vous devez donner votre ADN. Georges, eh ben, lui, il a appliqué ça, sauf que les flics ont trouvé quelque chose sur lui, un opinel, dit donc, c'est donc une arme de 6e catégorie, ils ont foutu ça sur le dos, pour essayer de le faire condamner. Donc voilà, ça va se passer donc à Montpellier le 22 septembre. On espère qu'il y aura beaucoup de gens pour le soutenir. Un autre procès, cette fois-ci, c'est un syndicaliste de Sud. Ça se passe à la cour d'appel de Douai. Alors là, ça s'était passé tout simplement à Dunkerque. Il avait été d'ailleurs condamné le 10 décembre en première instance à 500 euros d'amende. Alors faut dire que c'est vraiment particulier. Ce militant se rendait à une distribution de tracts contre la réforme des retraites devant une entreprise. Il avait été stoppé par la police. Il avait demandé donc le passage, il avait redémarré et un policier s'était jeté alors sur son capot. Le militant est donc, ça a été sorti de sa voiture, menotté et emmené au commissariat avec l'accusation de tentative d'homicide sur agent, puis de violence volontaire avec arme sur destination, l'arme étant la voiture, sur destination sur agent. En fait, les PV des quatre policiers ils n'ont pas témoigné d'ailleurs, mais qui ont écrit étaient complètement contradictoires, ce qui fait que ça n'a pas marché en première instance, puisqu'il a quand même été condamné à 500 euros d'amende, alors qu'il n'avait strictement rien fait. Alors bon, les gens vont se remobiliser là, le 27 septembre à Douai, devant la cour d'appel de Douai, pour que ce militant de Sud n'ait rien, n'ait aucune condamnation. Voilà. Il nous reste un peu de temps où, oui, on va parler un petit peu maintenant des déchets nucléaires. Vous savez que les déchets nucléaires traversent de plus en plus la France, sillonnent la France. Il y a de moins en moins de réactions, faut le dire, au niveau des militants sur place. Il y a de moins en moins de gens qui bloquent les trains parce que tout simplement, il y a déjà la police qui est là et qui essaye d'arrêter des gens. Et puis il y a le fait que, finalement, au bout d'un certain temps, on est complètement impuissant. Et ça en France par rapport au nucléaire. Alors peut-être qu'avec ce qui s'est passé à Fukushima, peut-être avec les mobilisations qui vont avoir lieu le 15 octobre en particulier à Rennes, mais aussi dans d'autres endroits, à Bordeaux, Toulouse, il y a d'autres manifestations, je crois, à Bugey, peut-être à Strasbourg, au Bugey, oui. Ouais. Peut-être à Strasbourg, au Bugey, c'est près de Lyon, en fait, c'est la région lyonnaise.
Ouais. Et puis à Dunkerque.
Et à Dunkerque aussi.
Contre Gravelines.
Contre Gravelines, voilà. Donc il est possible qu'il y a une remontée, on espère qu'il y a une remontée de la lutte véritablement antinucléaire qui proclame haut et fort à rien immédiat de cette merde, de cette usine de mort. Alors ce qui est étonnant quand même, c'est que au niveau du nucléaire, c'est toujours les mêmes qui ont la parole. Et là, c'est ainsi que la plupart du temps, ce sont les élus verts qui s'expriment. Et c'est ainsi que par rapport aux déchets qui sont passés le 8 septembre ou le 7 septembre à Bétheny, dans la région de Reims.
Oui, alors, sachant que théoriquement, c'était des déchets qui étaient renvoyés en Suisse et que, apparemment, cette semaine encore, passerait un train de déchets nucléaires en direction de la Suisse, puisque apparemment les Alsaciens ont découvert qu'il y avait une partie du trajet qui se faisait chez eux. Pour l'instant, on ne connaît pas du tout encore
le trajet qui va arriver certainement dans notre région aussi.
Oui, donc s'ils suivent le même trajet que la dernière fois, ils passent dans la région. Quoi.
Et alors dans la presse, on apprend que au niveau du nucléaire, la seule chose qu'ont à dire les élus, c'est le fait que les gens ne soient pas informés. Enfin les gens, surtout les maires, les élus des communes, ils disent d'ailleurs clairement qu'ils ne sont pas du tout contre le traitement des déchets et leur transport. Et c'est pas ça du tout qu'ils dénoncent, mais bel et bien l'omerta qui existe sur cette circulation. C'est lamentable, puisque justement le mouvement antinucléaire s'était battu et s'est toujours battu pour que la production nucléaire reste sur place et qu'on ne mette pas en danger les populations. C'est pas parce que tu seras au courant que tu as un danger que ça changera quelque chose. C'est n'importe quoi. Sur un souci, alors, une autre petite nouvelle qui nous a fait frémir, on en attend un peu plus de nouvelles. Il y a une association France-Israël qui est une antenne rémoise. Il y a, pourquoi pas, c'est leur problème, c'est pas le nôtre, sauf que ça fait référence un peu, parce qu'il va y avoir apparemment, si j'ai bien compris, un cycle de conférences à l'université. Et en réponse, ça sera finalement une réponse des sionistes aux conférences qui a lieu depuis, je crois, une paire d'années concernant la Palestine, où
depuis cette année, il y a eu une série de conférences à l'université, et donc eux, ils entendent répondre, voilà.
Ils entendent y répondre. Alors à signaler tout de même au niveau de ces conférences sur la Palestine qu'il y avait eu des sionistes qui avaient tout fait pour que l'université empêche ces conférences. En fait, ils y sont pas arrivés, et puis là, ils ont trouvé la parade, ils ont décidé donc de créer une antenne rémoise de l'association France-Israël. Alors, il y a un truc qui m'a fait sursauter tout de même, juste avant de partir, c'est ce que dit la présidente, qui m'a fait vraiment sourire. On oublie souvent qu'Israël est un État minuscule, ils sont quand même la bombe atomique, pas plus grand que deux départements. On le diabolise, on en fait un État dominateur, alors que c'est le seul pays démocratique de sa région, alors que c'est un État théocratique, faut-il le rappeler, où il y a des citoyens de seconde zone, ce sont les Arabes israéliens.
Alors nous, on le considère ni pas du tout, on ne la considère pas du tout. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter, vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'était Les Régors. Chaque semaine, sur l'écoute du Garrigue Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste.